à toutes et à tous. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens sur le 87.7 FM. En ce vendredi 12 décembre, vous retrouvez Léo, votre stagiaire préféré, pour ce nouvel Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je suis accompagné de Colline pour l'interview et Aline à la technique. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Ça va les chevilles?
À toujours.
Stagiaire préféré.
Stagiaire préféré, c'est toujours comme ça. Il s'est autonomé stagiaire préféré.
Autonomé stagiaire
préféré. Un peu de mal, mais ça va pour le moment.
C'est fou, hein. Alors, on le dit, hein, c'est la dernière fois qu'on entend Léo à la radio pour 2025.
Exactement. Mais il nous aime tellement qu'il revient en stage.
Voilà.
C'est ça. Et donc, Colline, qui reçois-tu aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je reçois Clémence Paulet. Bonjour.
Bonjour.
Tu es illustratrice. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui es-tu?
Donc Clémence Paulet, illustratrice de plusieurs albums pour enfants, de livres pour bébés aux livres pour grands enfants, voire même adultes, car les livres dits jeunesse peuvent être lus par tous les regards.
Et alors, tu viens nous parler d'un de tes derniers projets, Un air de trompette. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'interview. Avant ça, j'aimerais savoir un petit peu depuis combien de temps est-ce que tu fais de l'illustration et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'illustration?
Eh ben, mon premier livre, il est sorti en 2009, donc ça fait déjà un sacré bout de temps. J'ai fait des études d'illustration à Paris, Strasbourg et Bologne. Je suis sortie en 2010, donc voilà, ça fait 15 ans que je fais des livres. J'en ai publié une quarantaine à peu près pour plusieurs éditeurs. Et ce qui m'a donné envie de faire de l'illustration, parce que rapidement, je me suis orientée vers une formation en illustration dans mes études. Tout simplement, c'est ma passion pour le dessin et les histoires. J'aime qu'on me raconte des histoires.
Alors, tu as été en Italie, donc, pour tes études. Est-ce que tu t'es nourrie de plein d'endroits, par exemple, dans tes dessins? Comment est-ce que tu t'es inspirée pour tes différents albums? Comment tu travailles?
Ben justement, oui, avec pas mal d'images, de références. Et en effet, l'Italie, Bologne, séjour Erasmus quand j'avais 24 ans, ça a été un vrai déclic. C'est un petit peu cliché de le dire, mais c'est vrai que quand on a une appétence pour les images, aller voir les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, c'est incroyable. Donc, mon univers a pas mal évolué à ce moment-là. Et je continue au quotidien à être influencée par des grandes œuvres, mais aussi par les petites œuvres du quotidien, des petites choses qui se passent autour de moi, un oiseau qui vole.
Plein de petites choses.
Voilà.
Combien de temps durent les études pour être illustratrice? Être illustratrice, pardon.
En fait, on n'est même pas obligé de faire des études pour être illustratrice. Il y a plein d'auteurs illustrateurs qui sont autodidactes, qui ont un parcours qui est leur propre parcours. Moi, le mien est assez classique dans le sens où j'ai fait des études de dessin à l'école Estienne à Paris, la IR Strasbourg. C'est moi, à l'époque, ça s'appelait l'école des arts décoratifs de Strasbourg, et on découvre son univers, en fait. On élabore son univers plastique. Et on apprend à travailler à partir de textes, mais le métier s'apprend quand même en rencontrant des éditeurs, des auteurs avec lesquels on travaille. Une partie de notre métier qu'on n'apprend pas à l'école aussi, c'est d'aller à la rencontre des plus jeunes lecteurs, des lecteurs dans les écoles, médiathèques. Ça, c'est une grosse partie de notre travail.
Alors là, tu viens nous parler de ton dernier projet, enfin d'un de tes derniers projets, Un air de trompette, qui est écrit par Gilles Baume. De quoi parle ce livre jeunesse?
Donc c'est un livre, aussi je mentionne mes éditeurs, les éditions Feuille, avec lesquelles je travaille depuis presque 15 ans. Donc là, c'est, je ne sais plus, c'est notre 12e ou 13e livre ensemble. On a fait plein de projets très différents. Et là, ils m'ont apporté ce texte, ça fait déjà quelques années. Un texte assez ambitieux, parce qu'il s'adresse à un public, un lectorat, on va dire, assez âgé pour nous, donc 8-9 ans à peu près. Donc c'est un projet exigeant et il part en fait, Gilles Baume a écrit son texte à partir d'une anecdote historique, réelle, un quiproquo en fait dans l'histoire de l'art. J'en dis un petit peu plus.
Vas-y.
Voilà, la campagne napoléonienne, début du 19e, on rapporte plein d'objets et tout au long du siècle, quantité d'objets d'Égypte vont arriver et émerveiller le regard français et étonner aussi. Donc, on a apporté cet objet assez étrange, forme de trompette. Donc, on a dit que c'était une trompette. Et quelques décennies plus tard, cet objet a même inspiré Verdi pour son opéra Aïda qui se situe en Égypte. Et je crois que c'est Saxe qui a créé un instrument en référence à cet objet. Et on s'est rendu compte au XXe siècle qu'en fait, ce n'était pas du tout une trompette, mais un porte-encens.
Qui n'a rien à voir.
Rien à voir.
Alors, donc toi, tu as fait tous les dessins du livre. Comment est-ce que tu t'es inspirée notamment de ce personnage donc, qui est Edgar Plantin, qui est le conservateur du musée? Comment tu t'es inspirée pour créer ce personnage?
Alors, juste un mot sur le texte. Donc, par rapport à cette anecdote qui se situe sur plusieurs siècles, là, Gilles Baume, il écrit un récit qui va se dérouler sur 3 jours. Donc, on n'est pas du tout sur la même temporalité. Et le récit est drôle. C'est vraiment une farce poétique. On peut l'interpréter aussi de manière un peu plus sérieuse, malgré tout. Mais son ton est assez jubilatoire. Et donc, les personnages doivent faire sourire quand même. Donc, mon personnage est quand même ancré dans un 19e fictif. Mais on est quand même au 19e. Milieu, début, bon, voilà. Je me suis référée à Champollion, tout simplement. J'ai regardé quelques gravures et pour sa tenue vestimentaire, notamment. Et après, je lui ai donné une attitude un petit peu... d'un scientifique artiste qui est désemparé face à une demande invraisemblable de l'empereur. Et il a ce sérieux qui va être mis à mal parce qu'il doit faire une exposition en 2 jours de toutes ses œuvres qu'il n'a jamais vues, mais qu'il connaît peut-être par de précédents écrits. Mais voilà, il est un peu chamboulé. Donc, mon personnage a cet air constamment étonné, ahuri, éberlué. Donc, il a toujours les yeux grands ouverts et la bouche, les yeux et la bouche grands ouverts.
Oui, en fait, il s'inspire aussi des romans picaresques un peu dans son texte, même dans les personnages, je trouve. On a un peu de Don Quichotte, par exemple.
Ah oui, oui, oui.
Un peu le style.
Oui, 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 oui. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu d'absurde et de gestes, de grands gestes un peu paniqués.
Bon, Champollion, on le rappelle, c'est celui qui a découvert les hiéroglyphes.
Oui, voilà. Oui, oui.
Alors, on retrouve beaucoup de couleurs dans ce livre. C'est un peu ta patte aussi de retrouver autant de couleurs dans tes dessins. Est-ce que tu as mis longtemps à trouver ce style ?
On peut revenir aux fresques italiennes parce que c'est en rentrant dans ces églises restaurées que la puissance des couleurs m'est apparue comme une évidence qu'il fallait que je traite comme ça dans mes images. Plus tard, c'est des références du côté de l'Asie aussi. On n'a pas forcément eu en tête, parce que j'ai travaillé sur des contes chinois, les couleurs vives que pouvaient utiliser les Chinois dans leurs œuvres au 9e siècle, par exemple. Mais oui, la couleur vive, je l'utilise et je la réutilise dans mes livres, qu'importe le support, qu'importe le projet. Donc, je me fais pour chaque projet comme ça des petites palettes de couleurs vives que je vais exploiter dans tout l'album. Et là, pour un air de trompette, je suis allée voir du côté des estampes de Lautrec. Et un petit peu aussi dans toutes ces peintures du 19e qui reprennent les objets antiques égyptiens. Donc la palette, elle va, on a des prunes, des rouges, des dorés, mais aussi jaune, vert, vert péton.
Oui, le jaune, on le retrouve beaucoup.
Oui, oui, oui.
Alors il y a aussi beaucoup de décors. Enfin, c'est sur 3 jours, mais on voit notamment le décor du musée, puisque mm-hmm. c'est là que se passe, sur les 3 jours, je pense 2 jours de l'histoire. Ce musée, comment est-ce que tu l'as créé? Comment est-ce que tu t'es inspirée?
Donc oui, Edgar Plantin, il doit faire une expo avec tous les objets que l'empereur apporte, tous les objets qui viennent d'Égypte. Il doit faire une expo et il est déjà donc conservateur du musée. Donc tout simplement, le Louvre, hein. De toute façon, l'objet, il est conservé au Louvre. Cette fausse trompette, elle est conservée aujourd'hui au Louvre. Donc, je me suis... j'ai repris, par exemple, en décor des peintures que j'imaginais être au Louvre. En tout cas, qu'ils le sont aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en était au 19e. Il y a pas mal de pas de côté. Hein. Et puis aussi, notre musée Picard, que j'adore à Amiens, où je vais régulièrement. Donc, j'ai repris pour quelques tableaux qui sont... C'est des tableaux qui sont... Alors, je parle surtout des cadres et des supports de statues et tout, mais... je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais, ouais.
Sur les cadres, les références, les tableaux au musée de Picardie.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans le livre, ils sont en arrière-plan, en fait. Ils ne sont pas toujours mis en valeur, mais malgré tout, je travaille quand même pas mal tous ces petits détails qu'on ne voit pas au départ et qu'on peut apprécier au fur et à mesure de la lecture si on l'approfondit.
Tu as été la voir, toi, cette trompette ?
Non, toujours pas.
Tu comptes y aller
Oui, la dernière fois que je suis allée au Louvre, ça doit remonter à 2-3 ans. C'est vrai que quand j'étais étudiante, j'y allais toutes les semaines. Bon, après, voilà, ma vie à Amiens, ça m'empêche d'aller à Paris tout le temps, mais c'est pas bien grave. Vraiment, le musée à Amiens me ravit. Mais oui, j'y suis allée pour des recherches, pour un autre projet. C'était il y a 2-3 ans.
Alors là, on va enchaîner avec un autre projet sur lequel tu es en train de travailler. Ça s'appelle Bleu. Je vais te laisser expliquer parce que c'est vraiment un gros projet. C'est pas seulement un livre jeunesse. Tu peux nous parler un petit peu de ce projet et comment est-ce que toi, t'en es arrivé à travailler sur un livre jeunesse ?
Alors, donc, on travaille avec Eleanor Schein, une artiste amiennoise, qui, en fait, m'a contactée il y a maintenant, ça doit faire, 3 ans, quelque chose comme ça. Quand j'étais arrivée à Amiens, ça faisait un an. Et elle m'a proposé un projet que j'ai trouvé mais passionnant, parce que donc, elle est artiste, compositrice, chanteuse. Elle donc produit des albums et aussi des spectacles pour enfants. Et à l'époque, elle avait donc réalisé son premier spectacle qui s'appelle « Forêt ». C'est un spectacle pour malentendants également. C'est un livre-concert. Elle est sur ce genre de projet-là. Comme la musique, les malentendants peuvent la percevoir d'une certaine manière. Peut-être pas tout à fait comme les personnes qui entendent bien. Mais voilà, elle travaille sur ces projets qui sont chansigniers également. Donc, il y a des perceptions sonores et puis il y a le chansigne. Et donc, elle a fait ce premier projet forêt et elle est arrivée avec un deuxième projet qui s'appelle donc Bleu. Et elle m'a proposé d'en être l'illustratrice. Donc, j'étais trop heureuse qu'elle ait découvert mon travail et qu'elle m'ait proposé un projet comme ça parce que mes images allaient sortir un petit peu du livre pour autre chose. Elle écrit une histoire, elle compose des chansons. Et l'histoire, elle est donc illustrée et projetée pendant le spectacle. Donc là, le spectacle est en cours de diffusion. Elle le joue beaucoup à Amiens et autour. Et on avait envie dès le départ que ce projet devienne quand même un livre. Et c'est les éditions Benjamin Média, avec lesquelles j'ai déjà travaillé, qui sont avec lesquelles on travaille en ce moment sur l'adaptation en livre audio. Et Bleu parle d'exil, mais de manière très poétique. On suit une petite fille qui grandit tout au long de l'histoire et qui doit quitter son pays, son père étant déjà parti au préalable. Et elle doit partir elle aussi et tenter de le retrouver. Mais tout est écrit et chanté de manière extrêmement poétique. Les chansons sont vraiment sublimes.
Et le projet, donc, le livre sort en mai.
Voilà, il sortira en mai prochain. Voilà.
Mai prochain. Ouais,
on est vraiment dedans.
Alors, ce livre bleu, moi j'ai pu voir un petit aperçu et je trouve que les dessins ressemblent beaucoup à de l'aquarelle. Alors, tu m'as expliqué avant qu'on commence cette interview que tu travaillais notamment sur du noir et blanc et après tu rajoutais les photos sur les logiciels. Comment est-ce que tu t'y es pris de la même façon pour bleu ?
Donc en fait, oui, je dessine en noir et blanc. Alors pas pour tous mes projets, parce que je fais pas mal de gouache aussi, de peinture, mais souvent pour des projets pour plus petits. Quand les images sont un peu complexes, j'aime bien travailler tout en noir et blanc sur papier, à l'encre, au feutre. Et je vais travailler des matières aussi sur papier et que je vais scanner et après j'assemble et je transforme mon noir en couleur sur Photoshop. Donc pour un air de trompette, c'est des matières un peu de monotype, des gravures, un grain comme ça, qu'on peut retrouver, un grain un peu affiche 19e quoi, qu'on obtenait avec la litho, à la lithographie. Mais pour bleu, comme on est beaucoup sur l'eau, dans la mer, donc je suis partie sur des matières à l'encre de Chine, tout simplement. Donc j'ai travaillé toutes mes compositions au trait en noir et blanc, et après la couleur, les matières, c'est de l'encre.
Oui, donc tu utilises quand même différents supports.
Donc c'est du papier, c'est le papier. Après plusieurs outils, donc sur papier, je dessine au feutre, au pinceau. Je fais du collage aussi parfois. Voilà, mais...
Il y a des choses que tu as appris au fur et à mesure ou tu as tout vu, par exemple, pendant ta formation ?
J'ai vu quand même... Non, on découvre les techniques étudiants. Après, on se les approprie au fur et à mesure. Mais par exemple, j'ai fait beaucoup de gravures quand j'étais étudiante. C'est un peu compliqué de l'appliquer dans les albums parce que ça demande beaucoup de temps et on n'a pas forcément ce temps-là pour réaliser les livres. Mais... Mon projet, c'est quand même de me créer un petit atelier un jour pour pouvoir imprimer mes images pour des projets plus personnels et puis des livres éventuellement aussi. Mais c'est vrai que les techniques, je les ai apprises à l'école. Je les ai pas forcément utilisées tout de suite après.
Et justement, combien de temps tu as pour créer un livre ? Alors, ça dépend du projet, mais en général.
Ben, un livre comme Un air de trompette, ça s'étale quand même sur plusieurs mois. Plusieurs mois, je dirais 5-6 mois. Là, j'ai bossé un an dessus, mais entre-temps, j'ai eu un bébé. Et puis bleu, ben voilà, on a commencé il y a 3 ans. Là, on continue. Mais malgré tout, oui, on va dire que c'est 3-4 mois de travail. Ça peut être plus quand le sujet est complexe. Ça peut être un peu moins quand le texte est plus court.
Donc, tu travailles quand même sur différents projets en même temps ? Tu peux monter jusqu'à combien, par exemple ? Enfin, combien est-ce que tu arrives à faire de projets en même temps ?
Bah là, je dois en avoir 4 en ce moment. C'est un peu trop.
Ouais, parce que du coup, tu mets pas forcément la même énergie. C'est un peu plus.
Oui, alors j'aime bien. J'ai besoin de prendre du recul sur mes dessins. Donc c'est super, moi, d'avoir plusieurs projets en même temps parce que comme ça, je passe de l'un à l'autre. Mais en 2 jours, je peux avoir le recul qu'il me faut pour trouver une solution graphique à un problème. Donc j'aime bien, moi, jongler avec plusieurs projets. 4, c'est un petit peu trop. Idéalement, 2. 2 en même temps.
Et alors, tu as fait beaucoup de livres jeunesse. Est-ce que tu as envie de partir sur autre chose dans l'illustration ?
Pas tellement. C'est vraiment le domaine de la jeunesse. Parce que pour moi, il n'y a aucune limite, en fait, à la jeunesse. Et c'est vrai que j'aimerais que l'adulte ait un peu moins... se dirige peut-être plus naturellement vers des livres illustrés sans se dire que c'est pour les tout petits. Par exemple, vraiment, Un air de trompette, c'est pour un lectorat qui peut avoir tout à fait l'âge d'un adulte. Alors, je ne sais pas quel âge a un adulte, mais...
Oui, parce que moi, je l'ai... Alors, j'ai 24 ans, je l'ai lu. Je ne connaissais pas cette histoire de trompette, par exemple. Enfin, oui. De fausse trompette.
Oui, voilà, c'est pas forcément... L'adulte, c'est pas forcément le parent, en fait, d'un enfant. Ça peut être un jeune adulte qui aime encore les mots et puis l'image.
Et découvre de nouvelles choses.
Voilà.
Alors, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, Un air de trompette est sorti le 21 novembre dernier. Et je trouve que c'est une bonne idée cadeau pour les grands comme pour les petits.
Eh bien, merci.
Merci Clémence d'être venue dans le studio de Radio Campus Amiens pour répondre à ces quelques questions.
Merci beaucoup.
Dit sa main là se vourde, ça c'est mon dernier mot. Vide un qui dort, je bête. Ok, man, hard dog break de sauce. T'as ma meilleure bête de deux. T'avais brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Et c'est de la ste ronde. Et c'est de la fin d'amour. Et ben, me serve d'une mille. On est ensemble pour toujours. C'est mes mains, on frappe ma dos. Et qu'on y en a encore, encore. Et encore. Pas t'es comme tout. T'es un nom et trop lourd. Ça y va éclair. Est-ce que c'est tout?
als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. La da da. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik gooi je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. La da da.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, le 87.7 FM, à l'écoute d'InfoClub Sandwich, et vous venez d'entendre La Dada de Claude. On va passer à l'agenda culturel et associatif, mais avant ça, Colline, tu nous as également préparé une chronique.
Oui, et ça, c'est un peu style complètement différent de cette musique qui nous a un petit peu ambiancé en studio. Puisque hier soir, à la Comédie de Picardie, le poète Jacques Darras a proposé une lecture qui tenait plus de la conversation intime que de la performance littéraire. Alors avant, qui est Jacques Darras ? Eh bien, c'est un enfant de la Somme, né en 1939, agrégé d'anglais en 1966. Il passera toute sa carrière de professeur à l'université de Picardie jusqu'en 2005. En parallèle, il publie de nombreux recueils de poésie et plusieurs essais marquants comme « Nous sommes tous des romantiques allemands » en 2002 ou « Nous ne sommes pas faits pour la mort » en 2006. Ses écrits lui valent le prix Apollinaire en 2004, puis le prix de poésie de l'Académie française en 2006. Et pendant 4 ans, il anime un cycle de conférences consacré à la place de la Picardie dans la littérature française. Ce n'est qu'un petit aperçu des nombreuses activités de Jacques Darras, mais maintenant que vous le connaissez un petit peu plus, revenons sur cette soirée placée sous le signe de l'émotion. Accompagné à la flûte et au violoncelle par une composition originale de Nicolas Worms, Jacques Darras a parcouru sa trilogie, un ensemble de textes qui traversent 3 grands thèmes, la mer, l'amour et la mort. Sur scène, pas d'effet, pas de mise en scène lourde, Darras arrive simplement, lit, commente parfois, et c'est justement ce dépouillement qui fonctionne. Sa voix donne une autre dimension à ses textes, plus précise, plus incarnée que sur la page. La musique très discrète sert de fil conducteur, la flûte allège, le violoncelle ancre, et les deux viennent souligner les passages sans jamais prendre le dessus. On sent une vraie écoute entre les 3 artistes. Et ce qui reste de la soirée ? Une heure calme où l'on suit un poète qui sait exactement où il veut nous emmener, sans grandiloquence ni posture. Un spectacle simple, accessible, qui met surtout en avant le plaisir d'entendre un auteur lire ses propres mots et la force tranquille qu'il prenne une fois dit à voix haute. Alors si vous voulez découvrir ce poète, plusieurs recueils de ses poèmes sont disponibles en librairie. Et pour terminer cette chronique, une petite invitation, allez faire un tour au CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui se situe juste au-dessus de l'office de tourisme Place Cathédrale. Leur exposition permanente propose de découvrir notre département au fil de l'eau, un parcours parfait à accompagner des poèmes de Jacques Darras pour comprendre comment notre territoire nourrit encore aujourd'hui la poésie picarde.
Merci Colline. Et dans l'agenda culturel et associatif, on commence avec le Cirque Jules Verne qui vous invite ce dimanche 14 décembre à 16h pour un nouveau spectacle de la fête de Noël des écoles. Cette année, le cirque a fait appel à la compagnie Un loup pour l'homme, reconnue pour ses acrobaties à couper le souffle. Leur création en roue libre célèbre la chaleur du vivre ensemble, le nomadisme et l'esprit de la fête. entre caravane, hula hoop et acrobatie qui épouse la rondeur de la piste. Chaque scène est une escale qui nous plonge dans l'héritage bohème du cirque, porté par des musiques d'Amérique latine et des ambiances de veillée autour du feu. Un spectacle sensoriel, poétique, qui prend tout son ampleur sous le chapiteau du cirque Jules Verne. Côté tarif, 8 euros pour les abonnés CircoPass, CircoKid ou licencié FFEC. Le tarif plein est de 12 euros, mais 10 euros par personne si vous venez en duo. Et puis, direction maintenant un univers plus tendre avec le théâtre de marionnettes et Boucle d'or et les Trois ours. Un spectacle tout en douceur, spécialement conçu pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. Dans un cocon intimiste, les enfants seront bercés par les mots de la conteuse et plongés au cœur d'une forêt enchantée pour suivre les aventures de Boucle d'or. Un moment ludique et sensoriel de 25 minutes, pensé pour éveiller les enfants aux couleurs, aux formes et aux matières. Le tarif unique est de 4 euros. On poursuit avec un rendez-vous cinéma et mémoire locale en partenariat avec le comité de quartier Fafé. L'association Carmen organise la projection du film « Des histoires en or » réalisé par Sylvie Coren ce mardi 23 décembre à la salle de l'Albatros à Amiens. Il s'agit d'un documentaire né d'un travail de terrain. En 2010, avec plus de 20 ans d'archives de Canal Nord, la réalisatrice est allée à la rencontre des habitants du quartier Fafé-Brossolette. Au fil des échanges, c'est toute l'histoire des premiers résidents qui s'est dessinée. Des familles rapatriées d'Algérie dans les années 60, Harki est militaire de carrière, installé notamment dans la cité et les bâtiments bleus. La projection sera suivie d'un repas offert et préparé par les membres du comité de quartier. Puis d'une seconde partie, où le public pourra choisir des archives vidéo issues du fonds de Carmen. L'entrée est libre et gratuite, une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la mémoire vivante d'un quartier aminois. Et pour ceux qui ont faim, on enchaîne avec une pause gourmande à l'approche des fêtes. Ce samedi 13 décembre, l'Office de tourisme d'Amiens Métropole vous propose une visite gratuite du marché des producteurs de la rue Léon Blum. Vous serez accompagné par le chef Florian Atlein, enseignant au lycée hôtelier Saint-Martin, qui partagera recettes, astuces et conseils pour cuisiner les produits de saison. C'est donc une balade idéale pour préparer des menus de fête savoureux et responsables. Rendez-vous à 9h30 pour 2 heures de découverte culinaire. Et l'inscription est gratuite et se fait sur réservation auprès de l'Office de tourisme. Enfin, si vous souhaitez contribuer à la mémoire collective, la médiathèque Claudine Brandicourt de Flixecourt organise une dernière journée de dons d'archives le 17 décembre, de 10h à midi et de 14h à 16h30. Vous pouvez y déposer documents anciens, cartes postales, plaques de verre ou plans, afin d'enrichir le fonds patrimonial du territoire. Pour toute question, archives@nievresomme.fr ou contactez le 06 31 13 45 41. Et malheureusement, c'est la fin de votre Infoclub Sandwich. Restez à l'écoute de Radio Campus Amiens. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, on se quitte avec le titre Line of Fire de José González. Bonne journée et bon week-end à vous sur le 87.7 FM.
What would you do if it all came back to you? Each crest of each wave, bright as lightning. What would you say if you had to leave today? Leave everything behind, even though for once you're shining. You're standing on higher ground, but when you hear the sound, you realize it's just the wind. And you notice it matters who and what you lend your skin. to the test? Would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions and desires. Convince yourself to be someone else, and back from the world, your lack of confidence. What you choose to believe in dictates your rise or your fall. Dictates your rise or your fall. With no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Look through all your dark corners when you're backed up against a wall. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Back from a line of fire. Step back from a line of fire.